Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble. Bonjour tout le monde, vous écoutez Micro-ondes sur Radio Campus Grenoble 90.8 et aujourd'hui c'est le deuxième volet de l'émission que nous avons fait la semaine dernière sur l'islamophobie en France. Alors la semaine dernière, on avait un petit peu replacé le contexte de la création de cette domination.
Oui, effectivement, on avait parlé du racisme qui était daté, qui avait une naissance. Tout d'abord, excusez-moi, je me suis oublié. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à vous de nous écouter sur Radio Campus.
Et donc, aussi, voilà. Merci à nos invités d'être là avec nous. Nous retrouvons Philippe Robin et Pierre Didier.
Bonjour, bonjour.
Merci. Bonjour. Merci.
Et à la technique, nous retrouvons encore Baptiste et Jeanne.
Salut, salut.
Salut.
Donc, tu disais...
Donc, je disais, ouais, donc le racisme est daté. Saïd Boumama, nous avions passé une petite bande-son qui nous expliquait qu'il y avait trois âges, que ces trois âges avaient été, théorisés par Frantz Fanon, un auteur fort connu dans le monde militant. Et donc, voilà, il nous avait parlé des trois R, l'ère du racisme biologique, où la pigmentation, où les noirs étaient... dominé, discriminé, l'époque du racisme culturaliste où le racisme a muté pour s'attaquer davantage à la civilisation et inférioriser les peuples d'Afrique. Et la troisième ère que nous avons évoquée rapidement lors de la dernière émission, c'est l'ère du racisme religieux, à savoir l'islamophobie. Donc aujourd'hui, avec nos deux invités, nous allons tâcher de décortiquer un petit peu cette thématique qui passionne tout le monde à travers tous les médias. Il faut savoir que les musulmans représentent en France environ 8,5 millions de personnes, et les pratiquants 3,5 millions, et que cette petite portion de la population représente trois quarts des débats au niveau de la télé et des différents médias, et que dans l'extrême majorité de ces dix débats, eh bien, les premiers et les premières concernées sont toujours et toujours absents. Donc aujourd'hui, avec nos invités, nous allons décortiquer tout cela, à savoir déjà, pour commencer, c'est quoi l'islamophobie ?
L'islamophobie, si je reprends une définition qui était proposée par le CCIF, donc c'est l'ensemble des actes de discrimination ou de violence contre les institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Voilà, donc c'est une définition dans laquelle la CRI, Coordination contre le racisme et l'islamophobie, on se retrouve. Voilà, c'est des actes qui sont faits de manière contre des personnes pour leur islam, pour leur religion, réelle ou supposée, quoi, tout simplement. Et là où on fait un distinguo, important, c'est qu'on note, comme un racisme courant ou un racisme d'État, on note aussi une islamophobie courante, hein, du lambda, des gens dans leur interrelation interpersonnelle, on va dire, et ce qu'on appelle, nous, l'islamophobie d'État, sur lequel, forcément, l'État réfute ces terminologies et cette analyse, bien sûr, et on comprend bien. Et donc, nous, on pense qu'effectivement, il y a un système discriminatoire qui s'appelle l'islamophobie, qui est un système de l'État, mis en place par l'État, par des lois, par des discours médiatiques et politiques et par des rapports de force, etc. dans lesquels on montre l'autre comme une problématique, alors que ce soit un ennemi de l'intérieur, que ce soit un islamiste, que ce soit, etc., quelqu'un qui ne s'adapte pas, quelqu'un qui ne peut pas s'assimiler, quelqu'un qui est un problème culturel, etc. Donc,
Moi, je regarde la définition du Larousse, une définition objective de la chose. Le Larousse dit que pour l'islamophobie, c'est une hostilité envers l'islam et les musulmans, et les musulmanes bien évidemment. Donc elle rejoint pleinement ta définition que tu as évoquée tout à l'heure. Alors pourquoi aujourd'hui les politiciens à travers tous les plateaux crient « nous avons le droit d'être islamophobes » et remettent ce terme en question, parce que il y a le mot phobie, comme dans l'homophobie, la romophobie, etc. Toutes ces choses machiavéliques et honteuses. Et donc, ils remettent ce mot en cause. Et bah on se pose la question, pourquoi ? Pourquoi ce mot-là est-il remis en cause, et pas les autres, et pas l'antisémitisme, et tant d'autres ? Pourquoi ce mot-là est-il remis en question ?
Ben pour ne pas parler des phénomènes, justement. Pour ne pas parler du phénomène du rejet d'une partie de la population, du rejet de sa visibilité sociale visiblement religieuse, visiblement spirituelle, avec cette pratique extériorisée. C'est ce que permet le cadre légal français, c'est d'avoir une extériorisation de signes, qui soient enfin, de vêtements, de pratiques, qu'elles soient politiques, spirituelles, de quel corps que ce soit, tant qu'on est dans le cadre de la loi et qu'on ne trouble pas l'ordre public. Donc, et c'était le sens de la loi contre le voile intégral, contre le niqab, en 2011. Si je m'abuse. Et donc c'était il y a un problème d'ordre public, un problème de sécurité, on ne sait pas ce qui se passe sous ce niqab, attention, on ne sait pas, c'est dangereux, donc on interdit tout à coup, pour quelques centaines de femmes concernées, en quelque sorte, on fait tout un débat pendant un an, des commissions, on pointe encore du doigt un certain type de population, en faisant sortir des terminologies non maîtrisées par le public, comme le salafisme, l'intégrisme, des choses comme ça, avec tous les ismes dans lesquels on met beaucoup d'imaginaire, et beaucoup de problématiques pour cacher des vrais problèmes, en quelque sorte. Mais oui, sur le problème de l'islamophobie, alors il y a plusieurs réalités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui revendiquent l'islamophobie comme étant une critique de la religion. Et donc nous, moi, titre personnel, je dirais que la critique de la religion, à la limite, vous êtes libre de la faire, si ça vous intéresse, mais moi, j'en ai pas encore entendu de critique de la religion, parce que pour critiquer une chose, quelle qu'elle soit, un film, un livre... ou une doctrine, faut l'étudier, voilà, tout simplement. Donc faut l'étudier. Moi, j'ai jamais entendu Pascal Pro, le présentateur, ou je sais pas quel présentateur, ou philosophe, ou éditorialiste, faire une critique de la religion. J'ai jamais entendu ça dans les médias. Il n'y a pas de critique de la religion. Il y a juste une critique des pratiques. Il y a une insulte, souvent, des pratiques et des musulmans. Une mise à l'index, etc. C'est pas du tout une critique religieuse. Une critique religieuse, c'est quelque chose d'argumenté, de construit, d'intellectuel, sur lequel on peut répondre, et sur lequel, moi, à la limite, à titre personnel, j'aurais pas de problème. Non, l'islamophobie, c'est vraiment un rejet de ces phénomènes. Quoi.
Et toi, Pierre Dignier ?
Oui, moi, je vais dans le sens de Philippe Robin. Hein. Je pense que les textes religieux sont des textes publics. Tout le monde peut y avoir accès, tout le monde peut les lire, tout le monde peut les confronter à d'autres textes, vis-à-vis de soi-même, sa propre critique. D'ailleurs, le premier enseignement, comme on parle d'islamophobie, le premier enseignement du Coran, c'est la critique. Donc, je veux dire, c'est inhérent. À la religion, donc pour moi, une religion a le droit d'être critiquée, c'est pas un souci. Mais je pense que on est, sur la critique de la religion, pour moi, c'est on a le droit de critiquer tout ça. Bon, c'est bon, on évacue ce débat qui est pour moi un faux débat. Après, il y a trois dimensions dans le phénomène de l'islamophobie. Il y a un contexte international qui est quand même important, parce que bon, il y a la question de. Je pense que les choses ont pris de l'ampleur depuis les histoires d'attentats aux États-Unis.
Oui, le 11 septembre 2001.
Le 11 septembre, il y a les questions liées à un ordre international, la question palestinienne. Les problèmes en Asie, les problèmes au Mali, etc. Donc, dans le Sahel et tout, il y a cette dimension-là. Il y a une dimension nationale qui consiste aussi à mettre souvent en avant cette question-là ou à fabriquer cette question-là par rapport à d'autres questions qu'on veut peut-être, vis-à-vis desquelles on n'a pas trop de réponses ou alors on a des réponses limitées. Je pense par exemple à la question sociale, à la question économique, à la question du travail, à la question de l'emploi, à la question des inégalités, à la question des discriminations, etc. Je pense que là-dessus, ça c'est des vrais sujets vis-à-vis desquels, sans doute, on préfère parler d'islamophobie pour éviter de traiter ces questions-là. Et puis, il y a la question Il y a la question locale aussi. C'est-à-dire tous les jours, comment on vit avec, avec nos concitoyens, musulmans ou pas, et comment on est, quelle relation on construit avec, avec des gens qui sont croyants ou incroyants, agnostiques, athées, enfin peu importe, mais comment on entretient ce ciment commun qu'on a, qui s'appelle la République. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que, voilà, ces questions-là ne sont pas traitées et on préfère nourrir l'amalgame, la confusion, des faux conflits.
Mais il y a la question électorale qui vient se greffer à ça. Parce que si on entretient ce flou et si les gouvernements successifs ne peuvent pas traiter, ne savent pas faire une réforme des retraites correcte, ne savent pas faire une réforme de l'enseignement, de l'éducation nationale, forcément, il faut qu'il distrait un peu le peuple. Et depuis 1980, c'est l'histoire du racisme, ou aujourd'hui c'est l'histoire de l'islam. Donc c'est une utilisation électoraliste et à la fois une utilisation de domination d'un certain groupe de personnes pour pas qu'ils fassent émerger eux-mêmes une forme de concept politique de résistance en relation avec d'autres aussi, parce que je veux dire, il n'y a pas dans le pays 55 millions de Français racistes islamophobes et 5 millions de musulmans, c'est pas ça le schéma, c'est qu'il y a des gens qui sont majoritairement, on va dire, de gauche, attachés à un vivre ensemble, c'est-à-dire un vivre avec l'autre quel qu'il soit. C'est pas un vivre ensemble, mais toi, tu te soumets à ce que je te dis. C'est un vivre avec l'autre, quel qu'il soit, attaché aux libertés. Et je pense qu'il y a longtemps, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on parle de convergence de lutte. Aujourd'hui, on voit, effectivement, on peut voir apparaître certaines limites dans les convergences des luttes antiracistes, parce que effectivement, il y a quand même un certain pourcentage de partis traditionnels de gauche qui sont pas opérationnels sur ces convergences et qui ne feront pas cette convergence. Donc il y a l'émergence d'une force de résistance politique issue des quartiers de l'immigration et des porteurs de cette religion qu'est l'islam, qui peut se faire cette résistance, qui peut se faire avec d'autres personnes. Mais c'est pas les uns contre les autres. Je veux dire, on a quand même un terrain commun, comme tu disais, qui s'appelle la République. Mais interromps-moi quand tu veux.
Oui.
Parce que sinon.
C'est tellement intéressant ce que vous nous dites. C'est vrai que c'est difficile de vous interrompre. On l'aura bien compris ici, au sein de Micro-Ondes, l'objectif, c'est de déconstruire toutes ces croyances qui sont injectées à travers les médias et le politique. Et moi, ce que je constate, et j'aimerais bien qu'on déconstruise ce truc-là, c'est que des leviers majeurs qu'utilisent les politiciens pour faire accepter et entrer dans la tête des gens l'islamophobie, c'est le voile et sa portée de domination de la femme. Et avant d'enchaîner sur ce point-là, Samia, si vous voulez nous faire écouter un enregistrement, je crois.
Alors oui, il s'agit de vous faire écouter un enregistrement. C'est en fait un extrait d'une vidéo de Widad Ketfi où on va pouvoir entendre parler dedans Sylvia Naef, qui est professeure à l'université d'arabe de l'université de Genève. Et du coup, voilà, c'est un extrait d'une vidéo tirée de AJ+. Voilà, ça s'appelle « Pourquoi la France est obsédée par le voile ?»
Ce rejet du voile est en réalité lié à cette obsession du corps de la femme musulmane qui existe depuis des années. Lorsque les Français sont arrivés en Afrique du Nord, et notamment en Algérie, ils ont essayé par tous les moyens de dévoiler ces femmes qu'ils ne pouvaient voir. Selon de nombreux historiens, c'était un moyen de dominer et d'asseoir leur pouvoir sur leur mari.
On est aussi dans un contexte colonial, et donc, dans beaucoup d'autres pays qui ne sont pas des pays musulmans, bah, les femmes, on en prend possession avec le regard et pas seulement. Et donc, cette inaccessibilité des femmes musulmanes dans un contexte colonial de domination, parce que ça, c'est quand même très important, fait que c'est quelque chose qui irrite énormément. Le fait de se voiler la face était déjà un signe de distinction qui distinguait les femmes d'un certain rang social des femmes du peuple. Et que les femmes d'un certain rang et avec un certain nom ne voulaient pas se montrer, s'exposer. Il y a aussi un élément, ne pas s'exposer au regard de l'homme des classes populaires, de la part des femmes de rang élevé. Donc c'est aussi un signe de distinction.
Le maréchal Bugeaud, colonisateur de l'Algérie, aurait dit à l'époque « Les Arabes nous échappent parce qu'ils dissimulent leurs femmes à nos regards ». Et pendant toutes ces années de colonisation, le corps de la femme musulmane sera érotisé. Et son voile deviendra dans l'art et dans la littérature orientaliste un accessoire érotique, comme l'explique par exemple Bruno Nassim Aboudrar, professeur d'esthétique. Et donc, par ce dévoilement, il s'agissait d'humilier le peuple colonisé en imposant des images dégradantes de ces femmes pour montrer sa suprématie. Des images de propagande française étaient distribuées pour inciter les femmes à se dévoiler, et des cérémonies de dévoilement étaient même organisées pendant la guerre d'Algérie.
Là, ce qui se passe aussi dans ces dévoilements sur la place publique, ils ne sont pas toujours faits en demandant l'avis des dévoilés. Ce sont des actes violents. Le fait de ne pas voir la femme irrite. Alors, ça irrite d'un point de vue érotique et de cette idée que l'homme doit prendre possession visuellement du corps de la femme, mais ça irrite aussi parce qu'en effet, la femme qui est derrière un voile, un burqa, on ne la voit pas, mais elle voit les autres. Est-ce que c'est vraiment une pauvre femme soumise ou au contraire, elle a un pouvoir? Et une partie de l'irritation, et ça c'est par exemple le cas en Algérie, c'est ce fait qu'on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière et on ne sait pas qui c'est.
Et donc, presque deux siècles plus tard et plus de 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, on en est encore à débattre sur le corps et la tenue des femmes musulmanes. En France, il existe donc deux lois qui légifèrent sur cette tenue, la loi de 2010 qui interdit le port du voile intégral et la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école. Cette dernière loi, critiquée par l'ONU, concerne exclusivement les élèves et les représentants de la fonction publique, et donc ni les mères accompagnatrices, ni les intervenants extérieurs. Le problème, c'est qu'on a vu les dérives et l'incompréhension que suscitent ces interdictions, notamment avec le renvoi de jeunes filles parce qu'elles portaient tout simplement une jupe trop longue, ou encore l'interdiction de certaines plages à des femmes parce qu'elles portaient un burkini. Alors que tout ceci est illégal.
Merci pour ce petit passage, Samia. Donc on vient de voir que le voile pose problème aux dominants depuis un bout de temps déjà, hein. Ça c'était pendant la colonisation de l'Algérie qui a duré 132 ans et qui s'est achevée en 1962. Déjà à l'époque, le colon voulait dévoiler la femme algérienne. Et ce fantasme perdure encore aujourd'hui et il est véhiculé par tout le monde, y compris les féministes.
Et, certaines féministes.
Y compris certaines féministes, merci de rattraper. Y compris parmi une sphère des féministes qui disent, avec bienveillance hein, pour certaines, que c'est un outil de domination de la femme. Avant de vous donner la parole, chers invités, je me permets juste de citer un journal qui s'appelle Slate.fr, un article qui date du 30 septembre 2016, qui a fait justement une étude, parce que souvent c'est des fantasmes, on n'a aucun chiffre officiel de l'État qui dise les femmes sont dominées, les femmes sont obligées de mettre ce voile, etc., ils n'ont aucun chiffre. Donc le Slate a fait ce travail, donc si les invités ou si des auditeurs, des auditrices ont davantage d'informations sur ce point, eh bien merci de nous les communiquer. En attendant, l'Institut Montaigne, donc officiel, hein, dit qu'il n'y a que 6% de femmes voilées qui le sont par contrainte. Donc une extrême minorité. Pourquoi s'attaquer à une majorité de femmes, donc 94% à minima, sous prétexte que 6% est dominé? Est-ce qu'on ne devrait pas juste traiter ces cas individuels des 6% et les libérer de ce fléau?
Ben, personnellement, je pense que cette histoire de voile, alors c'est spécifique à la France, hein, on voit que ça peut se propager dans les pays qui ont une ressemblance idéologique, comme la Belgique ou le Québec. Mais on voit que c'est pas le même rapport notamment en Angleterre, et c'est pas le même rapport non plus dans les pays nordiques. Et je pense que alors, l'obsession française est liée au modèle assimilationniste, en fait, assimilationniste français, c'est-à-dire qu'on voudrait voir une seule tête, on veut voir un seul rang, une seule tête, une seule pensée, etc. Et voilà, tout ce qui est trop marqué, tout ce qui est trop, voilà, tout ce qui ne s'assimile pas culturellement, religieusement, voilà, ça pose un problème politique parce qu'on n'arrive pas à le gérer. Ça, c'est une première chose. On n'arrive pas à le gérer parce que supposer que derrière cette pratique du foulard et puis d'autres pratiques spirituelles, on va dire, liées à l'islam en tout cas, il y a une communauté, et la République a un problème avec les communautés, en tout cas avec la communauté des musulmans.
Comme il a eu un problème hier avec la communauté juive.
Avec la communauté juive, et comme il a fait dire à Spinoza, vous donnerez rien aux juifs en tant que communauté, mais tout aux citoyens juifs en tant que citoyens. Quoi. Voilà, tout simplement. Et on voudrait effectivement que le musulman accepte cette doctrine sociale, ce qu'il n'a aucun problème à faire, le musulman ou la musulmane. Mais dans la doctrine sociale et les fondements de la République, il y a le principe de liberté et de laïcité. Et donc, ce qui supposerait que ben, tout ça, ça ne serait pas un problème. Mais c'est un problème. Mais c'est un problème pour la République.
Juste là aussi, on va déconstruire. La laïcité, c'est quoi? La définition, c'est la liberté de conscience, la séparation de l'État et des organisations religieuses, donc la neutralité de l'État, et l'égalité de toutes et de tous face à la loi. On est dedans, malgré le voile, on est dedans. Pourquoi illégaliser ce qui est légal?
Illégaliser ce qui est légal?
C'est oui, comme ça. C'est la loi, en changeant la loi de 1905,
ouais, tout à fait.
On illégalise le voile qui est juste avant l'été.
Oui, tout à fait. Il y a, depuis 1905, il y a à peu près deux, trois grands changements. Hein. Il y a des changements anodins dans l'histoire, dans les dernières 100 ans, dans les derniers 100 ans. Et des changements anodins, des changements qui sont quand même des marqueurs, comme la loi de 2004, qui est quand même un marqueur, puisqu'on est en train de toucher au public. Alors, jusqu'à 2004, une fille peut porter le foulard au lycée, par exemple, et puis à partir de 2004, dans la même République laïque, la 5e République laïque, une fille ne peut plus porter le foulard au lycée. Donc du coup, qui n'est pas laïque dans les c'est la France d'avant ou la France d'aujourd'hui qui n'est pas laïque? C'est la France d'avant qui n'était pas laïque, pourquoi elle se proclamait laïque et pourquoi les présidents de la République française est laïque et sociale, etc. Donc tout ça, ce qu'on constate dans l'histoire finalement, c'est que les citoyens, eux, continuent leur chemin de citoyens en respectant un corpus historique et juridique et social. Et l'État lui-même, l'État, c'est les gouvernements successifs, eux changent la loi. C'est eux qui changent la loi de la laïcité pour rendre incompatible ce qui était compatible. Et derrière, qui en font un problème idéologique, un problème social, un problème politique. Donc on voit bien, quand on dit islamophobie d'État, on s'appuie sur le fait que c'est l'État qui change les lois de la laïcité, c'est pas les musulmans qui changent la laïcité. Les musulmans continuent, comme depuis des décennies, à être des citoyens français sans problème, comme tous les citoyens. Et l'État, en changeant le corpus juridique, rend illégal ce qui était légal, effectivement. Et ça, c'est une manière, premièrement, on l'a déjà dit, sans se répéter, c'est de cacher de vrais problèmes, de fabriquer un ennemi, de toujours entretenir cette problématique supposée de l'ennemi de l'intérieur, de l'incompatibilité, etc., etc., de diviser pour mieux régner, de couper, de ne pas faire, de couper la possibilité des ponts entre les citoyens, en fait, de couper la fraternité, tout simplement, parce que quand des médias de masse à longueur d'année, à longueur de journaux télévisés et les chaînes d'infos en continu font de ce phénomène un problème, ça a forcément une répercussion psychologique et sociale. Et la première répercussion psychologique et sociale, c'est de dresser les habitants les uns contre les autres. Et ça, c'est ça le vrai danger pour le pays. Le vrai danger pour le pays, c'est pas que 267 femmes portent un niqab, c'est de dresser 60 millions de personnes les unes contre les autres pour des faux problèmes. Et ça, c'est l'État qui est responsable de ça. C'est l'État et les médias. Et nous, dans les manifestations successives, au CRI, on dit toujours c'est l'État qui est responsable de la sécurité des gens dans ce pays, c'est pas les citoyens. Nous, on alerte. On alerte sur les dangerosités possible, et c'est plus des dangerosités possibles, c'est des faits, il y a des femmes qui se font agresser, on va jusqu'à la violence physique maintenant, c'est plus juste une exclusion d'une salle de sport, on parle plus de ça, on parle d'agression au couteau, on parle de gens qui vont faire un attentat contre une mosquée, c'est ça qu'on est en train de parler. Donc aujourd'hui, la semaine dernière, voilà, il y a un petit garçon qui a été exclu d'une cantine à Pont-de-Chéruy dans l'Isère, parce qu'il refusait de manger de la viande. Ouais. Donc, où on en est, quoi. C'est ça, c'est ça la France. C'est sûr qu'on doit rigoler à l'extérieur, on doit rigoler, franchement.
Mais ce que tu disais, c'est ce formatage, on constate quand même qu'il existe, bien évidemment, mais qu'il n'est pas à un haut niveau, parce qu'on voit que les Gilets jaunes, par exemple, qui ont des revendications, elles n'ont rien à voir avec l'islam. C'est plus de démocratie, plus de pouvoir d'achat, plus de retraite, etc. Mais justement, pour continuer à masquer ces problèmes de fond, qu'on ne traite pas. On subit actuellement la plus grosse casse des acquis sociaux depuis des décennies et des décennies. Et donc voilà, pour masquer ce fléau auquel on ne veut pas répondre, eh bien on bouge un épouvantail comme ça pour masquer le truc. Pierre Didier, tu voulais réagir ?
Effectivement, si on veut générer de l'égalité, on ne peut pas être jugé parti. Donc la loi de 1905, elle est extrêmement claire. Elle suppose une neutralité de l'État. Donc l'État, dans les affaires communes, dans les affaires publiques, tout ça, il doit être neutre. Et ça me semble être quelque chose de vraiment très important. Le problème, c'est qu'on transfère cette neutralité sur le citoyen. On veut que le citoyen il soit neutre, qu'il affiche rien, qu'il fasse pas part de ses croyances, de son incroyance, etc. Et ça, c'est un vrai...
Excuse-moi, Perdi, de t'interrompre, mais est-ce que c'est vraiment ça le fond du problème, que les citoyens soient neutres? On a vu que des tas de gens, des punks, des machins, des trucs, ont leur tenue bien à eux, vestimentaire, des coiffures, des machins, qu'en termes de religieux, les femmes, il n'y a pas si longtemps encore que ça, dans les villages, portaient leur foulard pour aller à l'église, que les juifs, dans certains quartiers, portent leur kippa. Est-ce que c'est vraiment cette neutralité qui est demandée pour toutes et tous de la même manière? Ou est-ce qu'on a choisi une cible et on s'acharne dessus? C'est cette cible-là, parce qu'on dit quoi? On dit refus des signes ostentatoires de religieux, mais pas les petits. Parce qu'on sait que les petites croix, ça, c'est pas très visible. On adapte, on exclut les mêmes, on illégalise ce qui est légal, mais uniquement sur la cible visée. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, il y a ben, sur le fait que l'islam est un problème, ça je suis d'accord. Justement, on essaye de voir en quoi et pourquoi les musulmans sont ciblés d'une façon spécifique. Et moi, il me semble aussi que dans l'islam, il y a des valeurs et des principes qui vont à l'encontre d'un système capitaliste. Impérialiste, qui fait que dans le rapport entre les nations, dans le rapport à l'économie, dans le rapport au peuple, dans le rapport à la religion, parce que dans les partisans d'une certaine vision de la laïcité, il y a des gens qui sont contre la religion, tout simplement, parce que ils donnent le sentiment qu'aujourd'hui, on vit une ère, une époque de progrès, parce qu'on s'est débarrassé, en particulier du christianisme, on s'est débarrassé du pouvoir religieux dans les sociétés d'aujourd'hui. Et l'islam est en fait la dernière religion qui vient résister à tout ça, qui vient proposer une alternative et qui vient, selon eux, remettre en cause ces principes où l'homme, finalement, est au centre, est au cœur de la société à la place de Dieu.
Mais on reproche à l'islam de vouloir changer l'existant, de vouloir remettre en question la démocratie, la laïcité, etc. Est-ce parce que quoi? Parce que l'islam et les musulmans auraient un pouvoir en France, auraient une force de pouvoir changer les choses? Mais en fait, quelle importance?
L'islam
de la femme. Je pense que celui qui se penche avec sincérité sur l'histoire et le statut de la femme dans qu'a pu avoir dans le monde arabo-musulman et quel impact il a pu avoir aussi en Europe. Ça serait intéressant, de la même manière que la langue arabe a eu un impact en Europe, que les libertés fondamentales ont eu un impact, ont permis la renaissance en Europe, etc. Tout ça issu du monde arabo-musulman. Mais je pense que, pour revenir à ta question, ce qui serait légitime, c'est de dire en quoi un texte, quel qu'il soit spirituel ou pas spirituel, qu'il soit supposé venir de Dieu ou pas supposé venir de Dieu, en quoi on ne pourrait pas prendre dans un texte pour corriger une société? Hein, on va mettre les pieds dans le plat. Pourquoi je ne prendrais pas mon Coran ou n'importe quel autre livre et trouver dedans une idée positive pour les hommes pour changer la société? On accuse, supposé, des islamistes de vouloir changer la société. Le capitalisme ne change pas. On n'accuse pas le capitalisme.
La société, on l'a fait ensemble.
Donc pourquoi le musulman, avec ses valeurs, pourquoi il ne viendrait pas et dirait « moi, je pense que... » Et moi, je crois que, oui, et moi, cette société, je pense qu'elle s'améliorerait en faisant ceci, etc., en proposant à partir de son texte ou à partir de n'importe quel autre texte, et à partir de son expérience, à partir de l'histoire humaine, elle appartient à tout le monde. Donc moi, en plus, venant des athées, souvent ça vient des athées, non, on prend pas votre livre, c'est de la religion, mais puisque tu crois pas à Dieu, d'où vient ce livre? S'il vient pas de Dieu, il vient d'un homme, donc moi je prends le livre d'un homme.
Où est
la religion là-dedans? Donc voilà, c'est une espèce de dialogue de sourds, c'est-à-dire on ne veut pas que des gens s'expriment, on va les taxer d'islamistes, on va dire que l'islamisme c'est le lien vers le terrorisme, etc., pour ne pas entendre ce que ces personnes ont à dire. Comme on pourrait critiquer des anarchistes parce qu'on considère que, comme on a critiqué le communisme et le socialisme à la fin du 19e siècle, le socialisme c'était du terrorisme à la fin du 19e siècle, c'était pire que communiste. Donc je veux dire, voilà, des gens viennent, oui, et alors je veux changer la société, j'ai pas le droit de changer la société, elle m'appartient cette société, elle appartient pas au gouvernement, elle appartient pas à l'État. Moi je respecte les gens, j'ai le droit comme tout le monde.
Un homme, une femme, une voix.
Voilà, que j'ai le droit comme tout le monde de prétendre être un élément positif de cette société en me basant sur le Coran ou sur ce que je veux, de ce que je veux de l'histoire, tant que ben, je ne suis pas en train de, oui, de faire du mal à quelqu'un, tout simplement.
Propose.
Donc c'est ça qui pose vraiment un problème.
On va faire une courte pause musicale, Samia ?
Oui, alors je vous propose d'écouter la reprise de Angèle Balance ton quoi, mais version adaptée.
Dans les innombrables banlieues françaises, où de nombreuses jeunes filles sont voilées, c'est également l'islam. C'est également du djihad, du djihad.
Ils parlent tous comme de vrais experts de tous les voiles, ça parle mal. 2019, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. On dit que les débats sont à la mode et qu'ils marchent mieux quand ils font mal. Ben faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui se voile, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, tu pourrais la faire. Moi je passerai par la radio, parce que mon voile n'est pas très beau. Les gens me disent à demi. Pour une voilée, t'es pas si bête. Pour une voilée, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère t'astreignent. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, tu pourrais la faire. Moi je passerai pas à la télé. Mon voile n'est pas très apprécié. Ça changera. À trop vouloir me sauver, tu finis par m'oppresser. Ouais, c'est mon choix. Ouais, c'est mon choix. Laisse-moi te chanter, tu pourrais la faire. Moi, je passerai pas à la télé. Mon voile n'est pas très apprécié. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. À trop vouloir me sauver, tu finis par me briser. Ouais, c'est mon choix.
Nous voilà de retour sur l'antenne. J'aurais aimé enchaîner avec un témoignage d'une personne que nous avons rencontrée, une femme voilée. Idéalement, nous aurions aimé faire cette émission avec davantage de femmes premières concernées. Malheureusement, le monde militant étant ce qu'il est, il y a eu des désistements de dernière minute et elles sont absentes. Mais voilà un de leurs témoignages sur lequel nous allons nous appuyer pour continuer l'émission. C'est celui de Cécile qui nous raconte un petit peu son histoire et comment elle a subi des discriminations à cause de son voile.
Donc je m'appelle Cécile, je suis éducatrice de métier, je travaille donc dans le milieu associatif, donc dans le social. Je suis convertie depuis 10 ans. Et je porte le foulard depuis 2 ans. Il y a environ 2 ans, je bossais dans une association depuis plusieurs années, sans mon foulard. Et à un moment donné, j'ai décidé de prendre un congé sans solde pour aller expérimenter un peu, enfin aller faire d'autres, aller voir un peu, aller travailler dans d'autres associations. Donc j'ai pris ce congé sans solde et j'ai postulé sur une ou deux offres d'emploi toujours dans le social. Et à un moment donné, j'ai eu un entretien dans une association une grosse association grenobloise. Au moment de l'entretien, je portais pas le foulard, donc j'ai fait l'entretien d'embauche. J'ai été convoquée à un deuxième entretien d'embauche où j'avais toujours pas le foulard. Et avant d'avoir la réponse suite à ces entretiens, j'ai décidé de porter le foulard. Voilà. Et quelques jours plus tard, on m'a rappelé pour me dire que j'étais prise sur le poste, sur le remplacement. Donc je me suis présentée le premier jour de mon travail avec mon foulard, donc mis en turban d'une façon que j'essayais de... Enfin voilà, en essayant d'être assez apprêtée, mais voilà, quand même avec un foulard. Et la journée s'est déroulée normalement, et à la fin de la journée, j'ai été convoquée par le directeur de l'association, au motif, enfin voilà, pour savoir comment s'était passée ma première journée. Et donc voilà, j'ai eu un petit entretien avec lui, et en fait, au fur et à mesure de la discussion, j'ai vu que ça s'orientait beaucoup, enfin, il essayait de savoir pourquoi je portais le foulard. Enfin, voilà, sa question a été la suivante, vous portez le foulard, c'est... Et il attendait que je complète sa phrase, du coup. Donc j'ai répondu que c'était mon style vestimentaire, et là, il s'est un peu... enfoncé dans une conversation, enfin il a tenté un peu des monologues autour de la laïcité d'abord, en parlant lui de sa religion à lui, de ses croyances, de sa famille, de son grand-père déporté à Auschwitz, de sa pratique catholique à lui, etc. Donc je l'ai laissé parler, je lui ai demandé en quoi ça avait un rapport avec moi. Donc il n'a pas trop su répondre, il m'a dit non, aucun, mais voilà, je vous raconte ça comme ça, etc. Ensuite il est parti sur la tenue vestimentaire au travail, en m'expliquant que lui, parfois, faisait des notes de service pour expliquer à ses salariés qu'il y avait des tenues qui n'étaient pas possibles au travail, etc. Donc je lui ai demandé s'il estimait que ma tenue n'était pas correcte pour le travail que j'effectuais. Ce à quoi il a répondu, si, mais c'est très joli, bien sûr, mais bon, voilà. Donc là, il ne savait plus trop comment aborder le sujet. Donc moi, volontairement, je faisais mine de ne pas trop comprendre où il voulait en venir. Et donc après, il a fini par me dire, mais vous voyez, le foulard, ça peut un peu susciter des représentations. Il y a des gens qui peuvent un peu interpréter sur le pourquoi vous mettez ce foulard, etc. Donc si vous pouviez, de temps en temps, un jour par-ci par-là, venir sans votre foulard, ce serait peut-être mieux. Et du coup, j'ai répondu que si ce qu'il me demandait, c'était donc de m'habiller en fonction de ce que pouvaient penser les gens et comment ils pouvaient interpréter ma tenue. Donc il a été assez mal à l'aise. Et voilà, du coup, ça s'est fini un peu en queue de poisson, cet entretien, et je suis sortie un peu en plaisantant et en disant que j'allais y réfléchir, et voilà, en lui souhaitant une bonne fin de journée. Voilà, donc il ne m'en a plus jamais reparlé, j'ai plus jamais eu de remarques ou de questions sur ma tenue. J'ai fait environ deux mois et demi de remplacement, et quand le CDD s'est terminé, on m'a proposé de renouveler, puisque la personne que je remplaçais n'était pas revenue. Et j'étais intéressée pour continuer, donc j'ai re-signé un contrat sans qu'on me parle de ma tenue. Mais en parallèle, j'ai été informée par mes collègues qu'il y avait un nouveau règlement intérieur qui était en cours de construction. Donc c'était pas prévu, c'était déjà prévu avant mon arrivée que le règlement soit réactualisé. Mais ayant eu la version qui est sortie et la version qui était initialement prévue, j'ai constaté qu'il y avait une petite phrase qui avait été ajoutée en mon honneur, qui était dans la rubrique de la tenue vestimentaire. Donc le salarié doit avoir une tenue correcte, point. Le port du couvre-chef est interdit dans l'enceinte de l'établissement, point. Voilà. Donc on nous a fait signer à tous le règlement intérieur. Et on m'a demandé, mon CDD se terminant, je savais qu'il y avait un CDI à pourvoir et qu'on souhaitait me le proposer, mais du coup j'ai été convoquée pour parler de ce règlement intérieur. Donc j'ai eu un entretien avec le directeur administratif et la directrice éducative, et on m'a demandé de me positionner face au nouveau règlement intérieur, comment j'envisageais, est-ce que j'étais prête à changer ma tenue vestimentaire ou pas. Et que si je ne le faisais pas, forcément ils ne seraient pas en mesure de me proposer un nouveau contrat. Donc voilà, du coup j'ai refusé. Pendant cet entretien avec les directeurs là de l'association, j'ai décidé eux aussi de jouer un peu carte sur table sur cette histoire de tenue vestimentaire, parce que j'avais bien compris que c'était en référence avec l'islam et non pas juste une simple question de vêtements. Et du coup la directrice a pu évoquer assez franchement, donc c'est vrai que c'était assez honnête de sa part d'évoquer ses représentations sur le port du foulard, et donc elle s'est présentée comme une militante féministe, assez engagée pour la cause des femmes et que donc personnellement c'était, ça lui faisait, ça lui renvoyait quelque chose d'assez violent, les femmes qui portent le foulard, parce que pour elle c'était un symbole de soumission de la femme, d'oppression, etc. Donc ce qu'on entend souvent sur les femmes qui portent le foulard. Donc ce à quoi, enfin on a pu échanger sur le fait que moi je suis convertie, que j'ai une, voilà, je suis française d'origine, française de souche, que du coup j'ai pas de, dans ma famille, de personnes qui pratiquent la religion, j'ai pas de père, de frère ou de mari qui m'ont incité ou même lancé l'idée de porter le foulard, que déjà ma conversion c'était, quand je me suis convertie j'étais célibataire, j'avais pas du tout d'influence masculine dans mon entourage, et que c'était un choix vraiment personnel, consenti, éclairé, le fruit d'un cheminement, etc. Donc j'étais, à mon sens, le contre-exemple parfait à sa théorie de la soumission de la femme dans l'islam, etc. Et que le port du foulard, je l'avais choisi là, au bout d'un certain nombre d'années. C'était encore une fois le fruit d'un cheminement spirituel qui m'amenait à un truc intime, qui me donnait l'envie de porter le foulard pour me rapprocher de ma spiritualité. Et... donc voilà, elle a trouvé, enfin voilà, donc elle, on a échangé là-dessus. Elle m'a aussi dit qu'un des arguments qui lui faisait percevoir le foulard comme quelque chose de négatif, c'était que dans certains pays, notamment par exemple en Iran, il y a des femmes qui se battaient pour avoir le droit d'enlever le foulard, que c'était très compliqué pour elles, qu'elles devaient faire des manifs, qu'elles étaient en danger quand elles manifestaient la volonté d'avoir ce droit de ne pas porter le foulard, et que du coup ça lui faisait violence que nous ici on le porte, etc. Ce que je lui ai répondu, moi, c'est que je faisais le parallèle entre le combat de ces femmes qui, en effet, avaient tout à fait le droit de manifester pour leur droit de s'habiller comme elles le souhaitent, mais que nous, ici, en France, en fait, les femmes qui portent le foulard, on se battait pour la même chose, c'est-à-dire le droit de s'habiller comme on l'entend, comme on choisit, et qu'en fait, c'était aussi un combat féministe, c'était une lutte totalement féministe de pouvoir s'habiller comme on le souhaite. Et je lui avais aussi donné l'argument, enfin, le fait que pour moi, nous interdire de mettre le foulard, et qu'en fait en France il y avait de plus en plus d'espaces où on était interdite, les salles de sport, le travail, les sorties scolaires, enfin voilà un peu tout ça, et que du coup en fait ça produisait exactement ce qu'ils pensaient eux qu'on vivait chez nous, en fait, c'est-à-dire ce phénomène de rester à la maison, d'être exclu, d'être opprimé, etc. Finalement c'est eux qui, avec leurs lois et leur représentation, le produisait en nous excluant des différentes sphères de la société, alors que nous, on a juste envie d'être comme tout le monde et de bosser, d'accompagner nos enfants, de faire du sport et d'être des femmes comme les autres, avec les mêmes droits que les autres, quoi. Voilà. Et donc l'échange s'est poursuivi un peu là-dessus. Et le lendemain, donc, j'ai réaffirmé mon choix de ne plus travailler pour leur structure, puisque je n'avais pas envie de changer ma tenue vestimentaire. Et le lendemain matin, cette directrice est quand même venue me voir dans mon bureau pour me remercier de l'échange qu'on avait eu, pour me dire qu'elle se sentait aujourd'hui un peu changée, moins conne, selon ses propos, puisque du coup, elle avait l'impression d'avoir vraiment évolué dans ses représentations et qu'elle me remerciait de lui avoir un peu ouvert les yeux sur ce qu'elle n'imaginait pas, en fait. Enfin, voilà, ça l'avait fait un peu progresser dans ses représentations sur les femmes voilées, et qu'elle pensait qu'en n'ayant jamais eu peut-être cette difficulté... Enfin, elle était contente d'avoir eu une discussion avec... une femme voilée, en fait, qui affirme ses convictions et qui lui explique, en fait, et voilà. Elle était assez satisfaite de l'échange, mais tout en me disant qu'elle pouvait rien faire pour changer le règlement intérieur, etc. Mais voilà, ça l'avait fait cheminer, en tout cas.
Donc vous venez d'entendre Cécile, une jeune femme que nous avons eu la chance d'interviewer. Elle synthétise bien l'ensemble de la problématique, à savoir que c'est une problématique créée, que c'est un fléau qui vient illégaliser, comme je disais tout à l'heure, des choses légales. Cécile est rentrée tout à fait légalement dans son entreprise avec son voile, et pendant qu'elle était là, on rajoute une clause au règlement intérieur pour l'illégaliser. C'est-à-dire que comme on ne veut pas d'elle uniquement, eh bien, le règlement la vise elle. C'est vraiment un coup de sniper. Et donc au lieu de libérer la femme de plus en plus, ben on est en train de la discriminer, de la reléguer aux tâches ménagères et loin de toutes les sphères sociétales. Et ça, c'est un vrai fléau, un vrai drame. Malheureusement, on n'a pas trop le temps d'aller plus en avant sur cette thématique. On va enchaîner, Samia ?
Avec les brèves, du coup. On va commencer...
Alors aujourd'hui c'est le TIDOR, le jour de souvenir des personnes trans assassinées ou suicidées. Et nous on est Rita, moi je suis Basile de Rita.
Et moi je suis Max de Rita. C'est une journée internationale qui existe depuis 20 ans, c'est le 20e anniversaire du TIDOR aujourd'hui. Ça existe depuis le 20 novembre 1999, suite à l'assassinat d'une femme trans qui s'appelait Rita Esther.
Rita, c'est le ressort intersexe et trans en action. Et du coup, c'est l'association trans et intersexe de Grenoble. Et là, pour le TIDOR, c'est la 4e année qu'on organise quelque chose pour cette journée de souvenir et de commémoration. Et pour la 3e année, on est place Félix Poula à Grenoble. Et on distribue des communiqués de presse pour expliquer qu'est-ce que le TIDOR et pourquoi c'est important d'être là ce soir.
Est-ce que vous pouvez préciser les enjeux aujourd'hui? Parce qu'après toutes ces années, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle plus? Est-ce qu'il y a plus d'événements?
Et ben là où on en est aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours à peu près toutes les 26 heures une personne trans qui est assassinée dans le monde. Ça, c'est les chiffres officiels. On suppose que la réalité, elle est beaucoup plus difficile et tragique que ça. Et ces chiffres-là, ils comptent pas parmi eux les personnes qui sont suicidées. En fait, la transphobie, ça fait des dégâts partout dans le monde. Alors peut-être un peu moins en Europe que dans d'autres endroits dans le monde. En tout cas, quand ça fait des dégâts monstrueux. Du coup, il y a un enjeu majeur pour nous d'être là et de pouvoir expliquer ça publiquement et d'être visible là comme ce soir sur la grande place de Grenoble.
Oui, parce qu'en effet, la transphobie, comme toutes les discriminations, du coup, c'est quelque chose qui va exclure les personnes de leurs cercles familiaux, sociaux, professionnels, etc. Cette exclusion-là, elle peut entraîner aussi du chômage, un repli sur soi, tout un tas de complexités, une forme de précarité aussi assez forte. Et puis, on parle d'exclusion, et puis il y a tout ce que disait Max tout à l'heure, à voir avec des agressions qui sont plus verbales, voire physiques, qui vont jusqu'au meurtre. Et du coup, nous on est là aussi pour rappeler que la transphobie c'est aussi un combat dans cette société qui est un peu au quotidien et que les assos comme Rita continuent de porter des revendications justement pour un accès aux droits communs qui soit tout simplement égal à ceux des autres citoyens, des autres personnes et puis à dénoncer un peu cette transphobie, voilà.
Et est-ce que vous voyez justement avec les événements qu'organise Rita, notamment cette soirée, est-ce que vous voyez une évolution dans la mobilisation sur ces questions ?
Eh bien, pour dire, ce soir là, on est un peu plus de gens que l'année dernière. Oui, il y a une évolution plus dans la prise de conscience. Disons qu'on a l'impression que ces dernières années, les trans existent dans l'imaginaire collectif, alors que ce n'était pas le cas il y a encore 6-7 ans ou 5 ans. En tout cas, que c'est vraiment ces 3 dernières années, ça a pris comme si les gens avaient conscience qu'on existait et qu'on faisait partie de la société, quoi.
Et au programme ce soir, il se passe quoi après ?
Du coup, après, on s'en va au cinéma Le Club, à Championnet, là, pas très loin. Ce soir, on a une grande chance parce qu'on va avoir la projection d'un film documentaire en avant-première qui s'appelle Indianara, qui est un documentaire vraiment génial sur la vie et les luttes trans au Brésil. Le film commence juste avant l'élection de Jair Bolsonaro et... petit à petit, il y a tout ce qui est autour des manifestations de la mort de Marielle Franco, tout ça. Le film est génial, ça vaut vraiment le coup de venir et on est super content de l'avoir à Grenoble. Bonsoir. Alors, en fait, c'est un peu impressionnant de j'avais écrit tout un truc pour préparer le film et puis j'ai qu'à juste... dire deux ou trois trucs. Cet été, j'étais au festival du film de Douarnenez et j'ai vu pour la première fois Indianara, le film, parce que Indianara, c'est aussi une personne. C'est un film puissant pour une femme puissante. Voilà.
Bonne Alors du coup, on vient d'écouter un montage par rapport au TIDOR, qui est le Trans Day of Remembering, qui a eu lieu à Grenoble et qui se passait dans le cadre de la projection d'un film qui s'appelle Indianara de Aude Chevalier-Baumel. Voilà, et maintenant, on va s'écouter un autre montage qui va parler du 23 novembre, ce qui s'est passé le 23 novembre, qui est le jour contre la violence faite aux femmes. Qu'est-ce que vous comptez ?
49, le nombre de féminicides depuis le début de l'année.
Au total, il y en a eu combien ?
137.
56, 57, 58, 59, 60.
Laura, 30 ans. Céline, 41 ans. Samantha, 43 ans. Madame X, 76 ans.
Je suis là pour marcher aussi pour les femmes qui ont été tuées, mais également pour les personnes trans qui sont tuées et dont on ne parle jamais, pour les personnes TDS, les travailleuses du sexe qui sont assassinées et dont on ne parle pas non plus, qui ne sont pas dans les quotas, qui ne sont pas dans les comptes, qui ne sont pas dans les 137 et qui méritent qu'on parle d'elles.
101, 102, 103, 104, 105.
Ce sont encore les victimes de se démener pour apporter des preuves, pour témoigner, pour vivre encore et encore des événements traumatisants, pour se retrouver confrontés à une personne qui les a détruites émotionnellement et physiquement. La violence, c'est aussi les discriminations que vivent les femmes qui portent le foulard mis à l'écart de la société par les institutions, les entreprises et même leurs concitoyens. Toutes les femmes ont le droit à l'émancipation, quelle que soit leur tenue, leurs croyances ou leurs origines. Nous avons des combats communs à mener sur les terrains sociétaux, mais aussi sociaux. Nous pensons notamment à la réforme des retraites, dont les femmes seront les principales victimes, avec leur temps partiel imposé, avec leur carrière interrompue par l'arrivée d'un enfant, par l'accompagnement d'un parent en perte d'autonomie ou d'un conjoint dans ses choix de carrière. Nous voulons que tout cela cesse et nous attendons des évolutions fortes. Pas dans 5 ans, pas dans 2 mois. Nous avons besoin d'un réel changement maintenant. Nous avons besoin d'être respectés, entendus et écoutés.
Libérés, délivrés, nous ne subirons plus jamais. Libérés, délivrés, c'est décidé, c'est fini. Et nous voilà, oui, nous sommes là, prêts à lutter. Le féminisme est la voix de la liberté.
Moi, ça me fait toujours un immense bien, en fait, les manifs féministes, voilà. Aujourd'hui, il pleut, mais là, c'est vraiment mon grand rayon de soleil de la semaine. Et j'ai particulièrement aimé la minute de cri. Je crois que je pourrais crier comme ça pendant des heures.
Madame X, 87 ans. Nathalie, 53 ans. Aurore, 34 ans. Sylvia, 40 ans. Karine, 48 ans. Aminata, 31 ans. Laura, 18 ans. Mariette, 85 ans. Aurélia, 22 ans. En plus de ces 137 victimes, nous n'oublions pas les 331 personnes trans déclarées assassinées dans le monde en un an. Je vous remercie de votre attention.
Alors aujourd'hui, ensemble, quel que soit votre genre, plutôt que du silence, nous vous invitons à crier pendant une minute. Hurlons pour celles et ceux qui ne peuvent plus. Crions pour toutes les victimes de féminicides, pour toutes les survivantes d'agressions sexistes et sexuelles. Laissons ces cris porter jusqu'à l'intérieur des commissariats, des palais de justice et des maisons.
prions pour dire aux victimes, nous vous croyons, nous vous aimons et nous sommes là. On va pouvoir commencer. T'en es-tu ?
Un, deux, trois.
À la fin de notre émission de micro-ondes sur Radio Campus Grenoble 97.8. Mais avant de vous quitter, on va avoir un tout petit point d'agenda cette semaine. Exceptionnellement, ce sera tout petit. On va vous parler du jeudi 19 décembre à 16h à la MJC des Eaux Claires à Grenoble. En fait, il va y avoir un débat avec un militant algérien sur la mobilisation populaire qui se passe en Algérie. Alors du coup, voilà, c'est avec l'idée qu'il y a dans l'air, de grève générale, voilà, en Algérie comme en France, ça se bouge, voilà. C'est un événement à l'initiative du NPA. Voilà, jeudi 19 décembre à 16h. Voilà, et ben maintenant, on a fini.
Il ne nous reste plus qu'à saluer nos invités. Malheureusement, Philippe Robin est déjà parti.
Voilà.
Il avait un empêchement, un rendez-vous.
Oui. Et puis, du coup, nous sommes tout de même avec Pierre Didier. Merci Pierre Didier d'être venu.
Merci beaucoup Pierre Didier.
Et merci à tout le monde.
Merci à la technique.
Bisous.
Et on se quitte du coup.
Ah oui, on se quitte avec un morceau de musique qui s'appelle Salutations révolutionnaires de Sidi Wacho.
Sidi Wacho.
Et la prochaine émission, du coup, aura lieu en janvier prochain et sera sur le thème, du coup, de toutes les luttes qui se passent actuellement en Amérique latine, contre les dictatures et contre l'impérialisme occidental en Amérique latine. Voilà, plein d'invités, plein de témoignages en perspective à cette émission, donc, du 5 janvier. À bientôt, bon mois de décembre à tous et salut.
Les petits gens se cassent les reins pour gagner 3 cacahuètes. Galère pour remplir la marmite avec leurs miettes. Contre la mitraille, flip pour l'avenir de la marmaille. Sky les miches et ça réchauffe en rêvant de maille. Mec c'est la zerbe et tout le monde sent pas les steaks. Chacun sa petite popote, si j'ai tort tu m'arrêtes. Ça me fout la gerbe, alors je te donne ma solution. C'est tout un système qui mérite un coup de peupon. Si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la baraque, et yo dis-moi que t'as pas peur. Faut se mettre à l'ouvrage, y'a du pain sur la planche. Si on se mettait à la tâche, si on remontait nos manches. Nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir. Rejoins la lutte camarade si tu crois en la victoire. Je te propose un deal, t'inquiète j'ai pas de carotte. Je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaires, derrière la même bannière. La résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutations révolutionnaires.
Calme, faut y aller,
unis
et solidaires derrière la même bannière.
Calme, faut y aller,
hey yo,
lève le poing, refuse ce bon en arrière.
Calme, faut y aller,
ne pas baisser les bras face à toute cette misère.
Calme, faut y aller,
rendez-vous en enfer, salutations révolutionnaires.
J'aurais pu grandir en Arménie ou faire du robadob à Kingston, résister à Pinochet au Chili, rencontrer les bouchers de Washington. taper la misère dans un doigt. Qui voit sa terre trembler sous un faux barrage. Du je ne sais quoi sous prétexte qu'Allahu Akbar. Faut sentir le froid dans le dos à Islamabad. J'aurais pu voir le jour au Tibet libre. Ou mourir de faim au Bangladesh. Être profidèle dans les Caraïbes. Avant les rues de Bagdad ou de Marrakech.
Il faut y aller, il faut y aller, faut y aller.
Unis et solidaires derrière la même bannière.
Faut y aller, faut y aller.
Yo, lève le poing.
Lève le poing, refais ce bon en arrière. Faut y aller, faut y aller.
Ne pas baisser les bras.
Ne pas baisser les bras face à toute cette misère.
Faut y aller, faut y aller. Rendez-vous en enfer.
Rendez-vous en enfer. Salutations révolutionnaires.
Affrontez les conquistadors en Mexico. Enfermé dans les géoles de Salazar. Thomas Sankara au Burkina Faso. Vivre les révolutions de Simon Bolivar. Caché au fin fond des montagnes tchétchènes. Pendant que la corne de l'Afrique flambe. Étudiant sur la place Tiananmen. Étudiant chilien en ce maudit jour de septembre. Avec Massoud à Kaboul. Face aux soviétiques et puis aux talibans. Ouvrier coréen en grève à Séoul. Défendre les droits de la femme à Téhéran. Passer ma vie dans les apartheids de Cisjordanie ou de Johannesburg. Peut-être Trima, Fibé Belouède et Amani.